Bonsoir, Dieu vous
Bonsoir.
bénisse, ça va bien?
Oui.
Bien, on va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour cette soirée. Autour de ta parole, nous voulons devenir meilleurs. Nous avons bien conscience que, eh bien, nous avons encore des progrès à faire. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, pour cela. La puissance que tu nous donnes par ton esprit pour faire des progrès. Merci, mon Dieu. Sois béni, Jésus. Aide-nous à bien comprendre ce message. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Je voudrais faire une lecture dans Matthieu 17. 6 jours plus tard, ça veut dire que pendant une semaine, il ne s'est rien passé. Ça fait drôle hein, quand on lit ça. Hein. 6 jours plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont reposés, je sais pas. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui, c'est Matthieu 17, 1. Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Tout à coup, il fut transfiguré en leur présence. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante et devinrent aussi éblouissants que la lumière. Et voici que soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Pierre intervint et dit à Jésus, « Seigneur, qu'il fait bon être ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse vint les envelopper, et voici qu'une voix en sortit, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils furent si effrayés qu'ils tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa sa main sur eux, disant, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ils ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation. « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. » Alors voilà, Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean et il monte sur une haute montagne avec eux. Pourquoi sur une haute montagne? Parce qu'il connaît le cœur de l'homme et il pensait certainement, très raisonnablement, que les badauds ne le suivraient pas jusque là-haut, c'était trop dur. Oh, c'est dur. Et là, les 3 apôtres, ça c'est moi qui dis, hein, c'était peut-être pas ça. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser comme ça, c'est ma façon. Et là, mais vous me connaissez. Et là, les 3 apôtres, ils sont témoins d'une manifestation céleste, quelque chose, je crois qu'il n'y a pas d'égal à ça dans toute l'histoire de l'humanité. Dans nos Bibles, c'est écrit, la transfiguration de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il avait comme but? Il avait plusieurs buts, bien sûr, il voulait certainement prier, mais il savait qu'une investiture de gloire allait descendre sur lui à ce moment-là. Pierre, Jacques et Jean s'étaient endormis. Eh oui. Ça, vous le lisez dans d'autres évangiles, il y a 3 évangiles qui racontent. Mais ils ont été réveillés par la splendeur de cette scène extraordinaire. Ils sont réveillés et ils contemplent avec une crainte respectueuse leur Seigneur qui est glorifié. Même l'aspect de son visage est changé, c'est quelque chose de... Ils sont même effrayés, hein, ils sont effrayés. Ses habits, faits avec du tissu tout à fait terrestre, hein, devient resplendissant et blanc comme rien au monde. Et Jésus était donc transfiguré, glorifié en présence de ses 3 apôtres privilégiés. Privilégiés. Et avec Jésus se trouvaient 2 autres personnes et eux aussi ils étaient rayonnants et ils parlaient avec leur Seigneur. Et comment Pierre, Jacques et Jean ont su que c'était Moïse et Élie? Alors, le texte ne nous dit pas, mais c'était sans doute en entendant la conversation de ces 3 personnes rayonnantes qu'ils l'ont su. De quoi est-ce qu'ils parlaient? Eh bien, de la mission que Jésus devait accomplir et de la manière dont il quitterait ce monde et comment il terminerait sa carrière. Ça, ce n'est pas écrit dans cet évangile, mais vous allez fouiller dans les autres et vous allez le trouver. Vous voyez, c'est important d'aller fouiller dans les autres, hein? Les études, hein? C'est pas mal d'étudier. Comme l'entretien prenait fin, Pierre se met à parler, Maître, rabbi, il est bon qu'on soit ici, on devrait. Laisse-moi, on va faire, si tu veux bien, trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Eux, ils pensent même pas à eux. Mais un texte nous dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait, tellement il était subjugué par ce qu'il voyait. En fait, ce que Pierre voulait, c'était retarder le départ des deux visiteurs. Il voulait qu'ils restent là, c'était bien. Et pendant qu'il parlait encore, une nuée est descendue, lumineuse, elle les a tous enveloppés. Et voici qu'il y a une voix qui est sortie de la nuée qui disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'était qui? Le Père. C'était Dieu le Père. Alors les apôtres tombent prostrés par terre, Jésus vient, il les touche, il leur dit: Levez-vous, soyez sans crainte. Et il n'y avait plus que Jésus. Élie et Moïse étaient partis. Jésus, alors, leur donne un ordre formel. Ne parlez de ça à personne avant ma résurrection. À personne. Même pas aux autres. Les trois apôtres ne comprennent rien, mais ils ont obéi. On obéit même si on ne comprend rien. Hein. On obéit même si on ne comprend pas. Mais quand même, ils se posaient des questions entre eux. Ils se posaient des questions entre eux. Ça veut dire quoi, ressusciter d'entre les morts? Ça, vous le trouvez dans les autres textes aussi. Ils se posaient la question. Qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter d'entre les morts? L'ordre était formel. Ils ne devaient même pas en parler aux autres apôtres. Et Pierre a finalement, quand même, il en a parlé. On trouve ça dans 2 Pierre 1, 16. J'espère que je vais le trouver rapidement, parce que c'est une Bible dont je n'ai pas l'habitude. C'est la parole vivante d'Alfred Kuhn. 2 Pierre 1, 16 à 18. Il dit: En effet, lorsque nous vous avons fait connaître la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous vous avons annoncé son retour, nous ne nous sommes pas laissés berner par des histoires inventées ou des mythes ingénieusement arrangés. Non, nous avons vu de nos propres yeux sa grandeur. Nous étions avec lui lorsque Dieu le Père l'a comblé d'honneur et de gloire, et que sa majesté suprême lui fit entendre ces paroles: Voici mon fils, mon bien-aimé, qui fait toute ma joie. Et cette voix, nous l'avons entendue nous-mêmes, car nous étions avec lui sur la sainte montagne lorsqu'elle retentit du ciel. Alors, Pierre en a parlé, mais il n'y a pas que Pierre qui en a parlé, il y a Jean aussi qui en a parlé. Vous trouvez ça dans Jean chapitre 1, verset 14. Mais c'était Jean, il a écrit son évangile longtemps après la résurrection de Jésus, donc il n'a pas désobéi. Il l'a dit après. Hein. Vous lirez ça, il a écrit: Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors ce jour-là, sur la montagne, Jésus a été encouragé, comme il l'a été au désert, par la visite d'un ange après la tentation. Et il allait encore être encouragé, soutenu, fortifié par un ministère d'anges à Gethsémané. Et de même, là, sur la montagne, des visiteurs venus du monde invisible sont venus pour le réconforter, pour lui expliquer le déroulement, comment ça allait se passer. Mais les quatre évangiles ne nous disent pas tout ce qu'ils se sont dit lors de ce moment extraordinaire. Moïse est le promulgateur, je ne sais pas si ça se dit ça. Promulgateur de la loi, et Élie, il est le représentant des prophètes. Pourquoi je dis que Élie est le représentant des prophètes? Parce qu'il se distinguait de tous les autres prophètes du fait qu'il n'était pas mort, hein, il était enlevé, et il a été vu servir Jésus là sur cette montagne. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'accomplissement de la loi et le remplacement des prophètes par le Messie étaient attestés par le commandement du Père: écoutez-le, lui. Vous voyez? C'est ça qui est important, qui s'est passé là. Les prophètes d'aujourd'hui n'ont plus le rôle qu'ils avaient dans l'ancienne alliance. C'est fini. On ne peut pas se servir des prophètes de l'Ancien Testament pour donner ça et le coller sur la peau de quelqu'un qui vit sous la grâce. C'est Jésus qu'on écoute, c'est plus ces prophètes-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les lire. Il y a quelque chose, il y a des choses au sujet d'Israël qui sont très importantes. Ça nous dit ce qui va arriver. Il y a des choses au sujet de la morale qui sont très importantes. Mais vous ne pouvez pas coller l'histoire qui est arrivée, je ne sais pas moi, à n'importe quel homme ou n'importe quelle femme en disant voilà. Puisque c'est arrivé comme ça à cet homme, à cette femme, ça va t'arriver à toi parce que, comme si... Non. C'est pas ces prophètes-là qu'il faut écouter maintenant, c'est les prophètes... C'est Jésus qu'il faut écouter. C'est Jésus. Écoutez-le. Donc, je répète, l'accomplissement de la loi et le remplacement des prophètes par le Messie a été attesté par le commandement formel du Père. Écoutez-le, c'est lui que vous devez écouter. Et Jésus, il est venu, il n'a jamais dit... Je viens pour vous juger, je viens pour vous condamner. Non, il dit, je viens pour vous sauver. Amen. Et il nous avertit, bien sûr, il y aura un jugement plus tard, on comparaîtra tous, mais vous ne pouvez pas faire de... Par exemple, je me rappelle avoir lu et avoir même entendu des gens dire, voilà, William Branham est mort d'une mort violente parce que Dieu l'a jugé indigne, etc. Alors il est... C'est faux. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il a été, il a fait comme ça autrefois avec les prophètes, mais maintenant, la promulgation de la loi et la façon des prophètes d'autrefois, c'est fini. Maintenant, les prophètes, ils sont là pour exhorter, consoler, reprendre en douceur, avec amour, toujours pour élever, n'est-ce pas ? Ah, c'est tout autre chose. Une nouvelle dispensation était établie, celle de la bonne nouvelle, celle de l'Évangile. Alors, l'Évangile a été complètement dénaturé pendant des siècles, et c'est pourquoi il a besoin d'être rétabli. Et ce que je vous dis ce soir, c'est une partie de ce rétablissement. Maintenant, c'est plus, c'est, vous avez compris, c'est Jésus qu'on doit écouter. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle dispensation de la bonne nouvelle. Que la loi et les prophètes... Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ben, ils avaient fait que de préparer la venue de cette dispensation de la bonne nouvelle. Mais cela, pour le savoir, il faut avoir au moins étudié un minimum avec des vrais ministres docteurs de la Nouvelle Alliance et pas simplement être prétentieux et se croire inspiré simplement parce qu'on a des idées quand on a lu un... Bon. Les apôtres ne devait donc pas se laisser guider par Moïse ni par Élie, mais par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, alors que Dieu est en train de rétablir toute chose, eh bien, c'est de nouveau là que le Seigneur nous met bien au clair. Et alors, regardez par exemple le jugement. Combien de fois on m'a dit tu es dans le jugement. Mais je ne sais pas qui m'écoute là. Mais s'il y a quelqu'un qui m'écoute, de ceux qui nous font de la peine en ce moment. Toi là qui écoutes. Comparé à Jésus, toi et moi, on est pareil. On est deux pourris. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Et tu ne peux pas me juger, je ne peux pas te juger. Je peux simplement te pardonner et tu dois me pardonner. N'est-ce pas la vérité ? C'est la vérité. C'est ça la vérité, c'est ça la bonne nouvelle. Et je ne suis pas en train d'essayer de vous manipuler. Ce n'est pas pour essayer de garder le château. Non, je m'en vais du château. C'est juste pour dire la vérité. La vérité. Il n'était pas venu, Jésus n'est pas venu pour juger, ni pour condamner, mais pour sauver. Alors Pierre et les fils du tonnerre, parce que c'était les fils du tonnerre, hein, les deux autres, ils sont étonnés parce qu'ils avaient entendu, ils avaient leur propre interprétation, évidemment, des Écritures et de l'Ancien Testament, à cause des religieux. Ils allaient, puis ils écoutaient à la synagogue, puis ils avaient leur propre interprétation. Alors, en redescendant de la montagne, ils demandent à Jésus, mais alors c'est tout de suite là, hein, là j'ai terminé, donc dans Matthieu 17, le passage, voilà, ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts, puis là il y a un point, puis il y a un nouveau titre. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il n'y avait pas un point puis un nouveau titre. Les disciples lui posèrent alors cette question. Donc tout de suite, ça leur est venu à l'idée. Pourquoi donc les interprètes de la loi prétendent-ils toujours qu'Élie doit venir avant l'arrivée du Messie ? Hein ? Et il leur répondit, effectivement, Élie doit venir pour remettre toutes choses dans l'ordre. Or, je vous le déclare, Élie est déjà revenu, mais personne ne l'a reconnu. Au contraire, les gens l'ont traité comme selon leur caprice. Or, il s'apprête à infliger les mêmes traitements au Fils de l'homme qui souffrira entre leurs mains. Les disciples comprirent alors qu'il leur avait parlé de Jean-Baptiste. Le fait que Jean-Baptiste officierait avec l'esprit et la puissance d'Élie comme précurseur de Christ, c'est ce que l'ange Gabriel a dit à Zacharie, son papa, avant la naissance de Jean-Baptiste, et c'était pas évident à croire. D'abord, il n'a pas cru. C'est pour ça qu'il est tombé muet. Vous vous rappelez de l'histoire? C'est pourquoi Jésus dit, « Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Il ne nous oblige pas. À la limite, il s'en fout si on n'y croit pas. Il est un petit peu comme moi, tu ne crois pas au baptême pour les morts, je m'en fous, je t'aime quand même, t'es mon frère. Vous voyez? Mais si vous voulez bien l'admettre, c'est lui. Vous voyez, vous comprenez la chose? C'est ça l'esprit de Jésus. Jésus n'a pas dit que Jean et Élie étaient la même personne. Et que Gabriel avait dit, ce que Gabriel avait dit, c'est que Jean manifesterait l'esprit d'Élie. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Élie était un titre d'office. Tous ceux qui rétablissent, tous ceux qui précèdent, tous ceux qui sont envoyés de Dieu pour préparer la voie des événements les plus importants dans le plan de l'Évangile sont des Élie. Vous avez un Antichrist qui doit venir, mais il y en a déjà d'autres qui sont venus déjà. Vous comprenez la chose? Eh bien, c'est la même chose avec Élie qui doit venir. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Ce n'est pas très important, ce n'est pas ça la vraie vie, mais disons que c'est bon de le savoir. L'appellation Élie est en fait à la fois un nom de personne et un titre. Vous avez encore des gens qui s'appellent Élie, ils s'appellent Élie Kaku. Mais c'est aussi un titre. Alors, aujourd'hui, Élie est apparu pour conférer son autorité à des détenteurs de la prêtrise en ces jours de rétablissement. Élie est venu pour conférer les pouvoirs qu'il exerçait tandis qu'il était sur terre. Et ça s'est fait dans la vraie Église de Jésus-Christ parce que cela est rétabli par Élie. Titre. Pas la personne. On n'a encore pas vu Élie arriver avec ses gros pieds. Sur la montagne de la Transfiguration, Moïse transféra ses clés et ses pouvoirs et Élie a fait de même. Est-ce que vous saisissez ça? Moïse et Élie donnèrent ses clés à Pierre, Jacques et Jean. Les autres apôtres qui étaient restés en bas de la montagne, ils ont continué à agir par la foi. Mais Pierre, Jacques et Jean ont reçu les clés de la prêtrise là. C'est dans la suite de l'histoire. Quand ils furent, parce que là de nouveau, c'est écrit, les disciples comprirent alors qu'il leur avait parlé de Jean-Baptiste. Point. Nouveau titre, puissance de la foi, verset 14. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jetant à genoux devant lui, et le supplia. Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique. Et tes disciples n'ont rien pu faire. Vous voyez? Les apôtres, qui étaient restés en bas de la montagne, ils agissaient par la foi, comme moi, quand je prie pour un malade. Mais quand l'esprit d'Élie est venu sur William Branham, ce n'était pas ça. Il faisait les choses qu'il voyait faire au Père. Et tout le temps, chaque fois, il y avait la guérison. Mais il ne priait pas pour tout le monde. Il priait pour ceux à qui que le Seigneur lui avait montré. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça ce vrai baptême dans l'esprit. Ils agissaient par la foi. C'est l'histoire des 9 disciples qui n'ont pas pu chasser le démon de l'enfant. Cependant, Pierre, Jacques et Jean, eux, ils avaient les clés de la prêtrise, mais ils ne le savaient pas encore. Ils ne l'ont pas réalisé. Pas plus que Pierre a réalisé ce qu'il disait quand il disait « Voici, la promesse est pour vous un aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera donc dans le monde entier. » Et quand il est envoyé chez les païens, chez Corneille, il n'en revient pas que le Saint-Esprit descend sur des non-juifs. Vous comprenez ? Quand dans les choses de l'Esprit, on les reçoit, mais la chair est toujours là. La chair est toujours là. Dans le domaine spirituel, les choses ne se déroulent pas comme dans le domaine terrestre. Jean-Baptiste était Élie, oui, un précurseur, mais pas celui dont parlait Malachie chapitre 4. Celui dont parlait Malachie devait venir à la fin de l'histoire de l'Église. À la fin. Et je vous le dis aujourd'hui, William Branham n'est pas le Élie que les branhamistes croient qu'il est. Il est un Élie. Il a commencé un rétablissement. Rappelez-vous la vision de Jackson. Il montait sur une montagne et là, c'était des paroles écrites, des paroles qu'on connaissait, mais qu'il a remis en place, etc. Puis ensuite, il a montré des paroles sur lesquelles, ben, vous connaissez tous cette vision. Il était un Élie dans le sens d'un précurseur, d'un rétablisseur, mais il n'était que William Branham. Il n'était pas Élie. Il avait, comme Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, le titre, il officiait. Je ne sais pas quel autre mot choisir. Mais il n'était pas la personne d'Élie. Il avait l'esprit d'Élie, mais il n'était pas la personne d'Élie. Ça, c'est clair. Les branhamistes pensent que c'était Élie, vraiment. D'autres disent non, il avait l'esprit d'Élie, parce qu'il se mouille moins. Branham n'a jamais dit « je suis Élie ». Ou alors, je n'ai pas tout lu, mais j'en ai quand même lu. Hein. Si je n'en ai pas lu 300 de ses brochures, je n'ai rien lu. Hein. Et puis, les 7 sceaux, et les 7 âges, et tout ça. Je vous dirais aussi que Jean-Baptiste a vraiment agi comme un Élie, avec l'esprit d'Élie, ayant la mission de préparer la voie à l'œuvre plus grande que la sienne. Il a officié comme un Élie. C'est par lui que fut prêché et administré le baptême d'eau pour la rémission des péchés. Maintenant, il a préparé la voie pour un baptême plus grand, celui du Saint-Esprit. Ça n'annule pas le baptême d'eau. Maintenant, je sais que la personne d'Élie est venue et je vous le révélerai bientôt. Je veux pas en parler maintenant, là, ce soir. Je dirai juste ceci. Pierre, Jacques et Jean ont été choisis pour assister à la résurrection de la fille de Jaïrus. Jésus leur montrait, impressionnait leur esprit avec des choses. Ils étaient des privilégiés. Plus tard, les trois mêmes hommes ont été les seuls témoins de l'agonie nocturne de Jésus au jardin. Cherchez, vous verrez dans les versets. Et c'est ainsi qu'il a ouvert la porte avec sa clé pour un baptême supérieur, celui du Saint-Esprit. William Branham est venu aussi pour rétablir le vrai baptême d'eau. C'est quand même curieux. Et il a été il a été celui qui a ouvert la porte avec sa clé pour un baptême beaucoup plus important, celui de 1 Corinthiens 15, 29. Mais il n'a fait que de donner la clé. Il ne l'a pas fait lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? William Branham est venu pour rétablir Jean-Baptiste est venu pour rétablir le baptême d'eau, qui était la clé pour arriver à un baptême plus grand, celui du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui viendra et vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et William Branham, il est venu pour rétablir le véritable baptême, Mais ça ne servait que de, ça n'était qu'une clé pour nous conduire à un autre baptême, beaucoup plus important, du moins en tout cas en nombre. Celui de 1 Corinthiens 15, 29. Mais lui-même ne l'a pas pratiqué. Ce n'était pas son rôle. Comme ce n'était pas le rôle de Jean-Baptiste de baptiser des gens dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez la chose? Mais ce baptême-là avait été donné par la personne d'Élie à un homme que le monde religieux a diabolisé. Comme ils ont diabolisé Jean-Baptiste, ils l'ont tué. Comme ils ont diabolisé William Branham, vous avez vu ce qu'ils en ont fait dans les religions. Hein, et comme ils continuent à diaboliser ceux qui ont le titre d'Élie. Je ne dis pas que je suis Élie, je ne dis pas que j'ai l'esprit d'Élie, je ne dis pas ça. Mais je dis que chaque fois qu'on apporte quelque chose de nouveau, qu'on rétablit, pas de nouveau, mais qu'on rétablit quelque chose d'ancien, ça paraît nouveau et c'est un scandale. Et on diabolise des gens comme ça. C'est dans l'esprit, c'est dans la chair, l'esprit de la chair qui fait ça. Je vous parlerai de ces choses d'abord en privé, les frères et sœurs. D'abord en privé. Et j'ai le droit de le faire. Jésus prenait aussi Pierre, Jacques et Jean en privé. Et puis après, c'était les autres qui le savaient. Donc on va faire la même chose. C'est vous qui avez tout vendu. C'est vous qui avez tout quitté. C'est vous qui vivez en communauté. C'est vous qui avez fait tous les sacrifices. Donc c'est vous qui méritez d'avoir d'abord les choses. Et puis, nous verrons comment Dieu va nous conduire pour que ces choses soient révélées, parce qu'elles sont saintes, elles sont sacrées, elles préparent toutes choses avant que Jésus n'entre en scène. Ça vient en tout dernier, quand Jésus entre en scène. Alors, je vous dis ces choses afin que le tri se fasse. Afin que le tri se fasse. Jésus en a choisi 3 sur 12. Puis, un des 9 qui restaient, qui n'ont pas été choisis, il y en a un qui est tombé. Mais sa chute, elle était nécessaire pour que puisse s'accomplir ce que Élie et Moïse étaient venus dire à Jésus sur la montagne. Il fallait qu'il soit trahi par quelqu'un, etc., qu'il soit livré, qu'il soit crucifié. C'est de cela dont ils se sont entretenus. Vous lirez les autres évangiles. Luc, je ne sais pas si c'est pas dans Luc 47 où il est dit... Vous chercherez, vous verrez. Non, Luc 12. Enfin, vous chercherez. Alors, on va rester là ce soir, mais je vous dis ces choses afin que vous sachiez que je sais. Que vous sachiez que je sais. Et quand ça arrivera à maturité, eh ben, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit, que j'avais préparé vos cœurs pour ça. Alors, priez dans ce sens-là, priez pour bien comprendre. N'en faites pas toute une histoire, mais soyez, des gens spirituels. Ce qui est important, c'est la vie, c'est pas la doctrine. On s'en fout de la doctrine. Ce qui est important, c'est... Bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais disons qu'il faut pas que ça nous divise. Les gens qui se servent de la doctrine pour diviser, c'est vraiment bas. Ce qui est important, c'est la vie, ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. On va pas le détruire à cause d'une doctrine. Mais il faut que, quand même, la doctrine existe. Donc, il faut la connaître. Il faut, les réalités spirituelles existent et il faut les connaître. Et elles s'expliquent par les Écritures elles-mêmes. Et vous voyez, quand je vous parle d'Élie et tout ça, il y a un grand mélange. On est dans les religions, ils ne savent pas, ils disent des choses, mais ils ne connaissent pas vraiment. Ils parlent comme un peu Pierre... à parler, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, il faut faire une tente pour toi, une tente pour... Voilà, ils parlent, mais ils ne savent pas trop ce qu'ils disent. Dieu ne leur en veut pas, c'est tellement humain de parler sans savoir ce qu'on dit. Mais il vaut mieux savoir les choses que Dieu veut que nous sachions. Mais pour les savoir, il faut encore avoir l'humilité de dire, je ne sais pas tout, et je veux bien apprendre encore. Et ça, c'est ce que nous voulons, c'est apprendre encore. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de chercher ces choses que Dieu a cachées. Il y a des choses que Dieu ne nous révélera jamais avant qu'on soit dans le ciel, mais il y a des choses qui concernent le plan du salut qui doivent être révélées en cette fin des temps. Pendant que les gens cherchent la date, nous cherchons à vivre les choses que Jésus veut que nous vivions. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de savoir la date, mais c'est d'être prêt. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci Amen. Jésus de bénir mes frères et sœurs et permet que les gens qui écoutent et qui sont peut-être un peu troublés par ce que j'ai dit puissent simplement préparer leur cœur dans la prière, disant Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire encore? Je veux me préparer afin de comprendre ce que tu veux dire. Je veux savoir. Je veux être éclairé. Je veux que ton esprit me parle. Je te demande, mon Dieu, de bénir chaque personne pour que chaque personne se prépare dans la prière pour recevoir. Je sais, Seigneur Jésus, que tu as donné ensuite aux autres apôtres ce que tu as donné aux trois, là. Mais, Seigneur, tu commences toujours par des petits commencements. Et je te prie, Seigneur Jésus, de bénir mes frères et sœurs de la communauté qui sont fidèles, de les conduire toujours à avoir cette humilité et ce saint désir de te connaître davantage afin de mieux être transformé dans ta propre image. Merci, Jésus. Amen.
Amen.